Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021, table ronde.
Voilà, donc bienvenue à chacun. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Le thème de la table ronde est donc nos campagnes laboratoires, pour repenser la mission, point d'interrogation. Alors, autour du plateau, donc, Monseigneur Philippe Mousset, vous êtes donc évêque de Périgueux et Sarlat depuis 2014. Vous avez 66 ans. Sarlat et Périgueux, c'est donc la Dordogne, c'est le département numéro 24. Vous avez été évêque aussi de Pamiers de 2009 à 2014. Brièvement, vous êtes fils d'agriculteur, vous êtes le troisième d'une famille de 10 enfants. Vous avez travaillé un temps, mais m'avez-vous dit peu de temps, sur une exploitation familiale. Vous avez fait des études techniques agricoles dans un institut rural d'éducation et d'orientation. Et puis surtout, vous avez travaillé dans un centre de gestion et d'économie au service des agriculteurs et des coopératives. On peut dire aussi que votre diocèse est engagé dans un DMS, c'est-à-dire une démarche missionnaire synodale. Vous nous en parlerez. Autour, à ma gauche, Héloïse Petricciolo, donc, qui a 32 ans. Héloïse est mariée, elle a 5 enfants, elle est diplômée de Sciences Po Toulouse. Je commence par vous dire bonjour déjà, peut-être. Vous êtes membre de la communion Priscille et Aquila, qui est une communion de couples missionnaires un peu partout en France. Vous avez quelques engagements dans votre paroisse. Votre paroisse, c'est l'ensemble paroissial Notre-Dame des Coteaux. C'est dans le Comminges, dans le diocèse de Toulouse, au sud-ouest de Toulouse. Et votre paroisse regroupe 64 clochers. Même si ce n'est pas vous le curé, vous aurez compris quand même. Isabelle Pellissier du Rosas, bonjour. Vous avez 26 ans. Vous êtes diplômée d'HEC, vous êtes une femme d'entrepreneuriat, c'est votre spécialité. Vous êtes cofondatrice des WEMS pour Week-end Mission Prière Service avec Dauphine Pigano. Et vous êtes aussi fondatrice de la mission Isidore, c'est une année de césure. Alors les WEMS, c'est donc des week-ends, comme son nom l'indique, où vous vous mettez au service avec d'autres jeunes de paroisse un peu partout en France et donc surtout dans le monde rural. Il y a d'AGAU à peu près 35 week-ends avec des jeunes qui viennent de différentes villes de France. Et la mission Isidore, c'est une année de césure. Vous en avez vécu une, vous l'avez initiée en 2017 en Auvergne. Alors, je me disais au début de cette table ronde, très brièvement, peut-être une ou deux choses sur la manière dont on va essayer d'animer la conversation. Et puis une ou deux choses sur le monde rural. Tout ça ne prétend pas être exhaustif. Je me suis dit que le mieux était peut-être d'essayer de faire comme le pape François. Voilà, si notre pape est un jésuite, c'est peut-être que les circonstances pour l'Église universelle l'exigent. Dans un dernier livre qui s'appelle « Un temps pour changer », le pape François propose trois temps, voir, choisir et agir. On va donc essayer de faire ça ensemble, voir, essayer de voir ce qu'est le monde rural avec vous, essayer de voir quels sont vos choix missionnaires aux uns et aux autres, et puis comment nous, on peut agir derrière vous. Pour cette introduction qui est peut-être un tout petit peu longue, je rajouterai juste une ou deux choses. Le monde rural, qu'est-ce que c'est ? C'est un vaste sujet. Je voulais juste vous donner une information au début. C'est qu'en 2020, l'INSEE a changé, on va dire, ses modalités de définition du monde rural. Aujourd'hui, ce sont trois réalités. Les communes très peu denses, à faible influence autour d'un pôle, ou alors sous forte influence d'un pôle urbain. Ça fait quand même 33% de la population française, 88% des communes, et ne serait-ce que pour la région Occitanie, 92% des communes et 2 habitants sur 5. Alors, Monseigneur Mousset, hier, Raphaël Cornu-Thénard, qui est donc l'initiateur inspiré de ce congrès mission, nous disait « L'Église est face à un effondrement ». Alors, je sais que les évêques n'aiment pas qu'on commence par les mauvaises nouvelles, mais si vous deviez juste un petit peu plus nous présenter votre diocèse, côté ombre pour commencer, et après côté lumière, quel est l'état de la situation pour le diocèse de Périgueux et Sarlat?
C'est une vaste question. Moi, je pense que j'ai pas envie de trop m'étendre sur les questions sociologiques. Parce qu'on les connaît, il y a plein d'études qui ont été faites sur la situation du rural. On sait qu'il y a eu un affaiblissement même de la présence de l'Église dans le milieu rural. On le sait, ça fait l'objet même d'un affaiblissement très important du catholicisme dans le rural. Et donc, je ne sais pas si je vais passer trop de temps là-dessus.
Alors, je vais quand même vous forcer un tout petit peu là.
Alors, forcez-moi.
Combien vous avez de prêtres actifs dans votre diocèse ?
Alors, en comptant tout le monde, c'est-à-dire les plus jeunes et les moins jeunes, nous sommes à peu près à 55 à 60 prêtres.
Pour combien de clochers, on va dire
Pour 26 paroisses restructurées. Donc, ça fait peu, mais...
Et dans 10 ans, parce que Raphaël Cornut
dans 10 ans,
c'est 50% de moins. Est-ce que c'est le cas
chez
vous ?
Oui, à peu près. Je n'ai pas fait de pourcentage, mais à peu près, oui, tout à fait. Mais justement, je n'ai pas envie d'aborder trop cette question. Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, parce que le semeur doit connaître son terrain. Le berger, s'il veut conduire son troupeau, doit connaître un peu la montagne. Pour conduire, bien sûr, le troupeau et les brebis. Mais ce qui me semble le plus important, c'est de faire attention à ne pas rester dans une approche trop administrative des paroisses dans le rural. C'est ça que j'ai envie de dire. Et de faire de vivre une réforme intérieure. Et je crois, il me semble que hier, il m'a semblé entendre cela dans la veillée de diverses manières. Une réforme intérieure de la paroisse pour que elle sorte des sentiers battus. Voilà, c'est peut-être la formule que j'ai envie de dire, sorte des sentiers battus pour ne pas être un peu comme dans l'évangile que le pape François avait pris au début de son pontificat, cette femme, cette personne courbée sur elle-même, auto-centrée sur elle-même, qui n'arrête pas de s'évaluer, de s'auto-évaluer avec beaucoup de respect, hein, je n'ai aucune condamnation là-dessus, et de voir comment le Seigneur peut et les appelle à vivre de sa présence et d'avoir toujours en tête, quelles que soient nos forces, la mission est pour tous. On ne peut pas se résigner à vraiment un repli sur soi, même si on est petit, pauvre, il faut toujours avoir ce cap. Donc voilà ce que je souhaiterais dire spontanément en premier.
Alors, on va donner la parole peut-être aux autres. Je vous propose au début donc de cette table ronde qu'on essaye de regarder la situation quand même un peu comme elle est, parce que tout le monde n'est peut-être pas du monde rural, même si on imagine que c'est le cas. J'en connais au moins un dans l'Assemblée qui en est. Et après aussi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de quelques personnes ou visages. Voilà, parce que toutes ces tables rondes, en fait, n'ont qu'un but, c'est de rejoindre toutes les périphéries dont parle le pape François. C'est d'ailleurs le terme qu'utilisent aussi les évêques de France, disant que le monde rural est parfois une périphérie dont on parle moins. Isabelle Pellissier du Rosas, comment vous auriez envie, peut-être en prenant l'exemple d'un week-end auquel vous avez participé, vous en aviez cité un quand on s'était eu pour préparer la table ronde, voilà, un diocèse, une paroisse que vous avez visité avec les WEMS et qui, pour vous, donne un peu la température, on va dire, côté ombre et lumière dans le monde rural.
Vaste question. Je propose de vous redire en 2 minutes ce que sont les week-ends. Alors, mission prière service.
On le fera après.
Pour vous, peut-être vous exposer le contexte dans lequel.
Si ça vous embête pas, on le fera après, puisque j'ai expliqué. J'ai expliqué que donc ces week-ends c'était des temps de service de jeunes dans le monde rural, mais on y reviendra après.
Ce qui me semble important, c'est de vous dire que quand on organise ces week-ends, on vient en fait pendant un an, on vient plusieurs fois régulièrement entre tous les mois et tous les 2 mois dans la même paroisse, dans une paroisse qui a fait appel à ce groupe de jeunes, donc qui souhaitent vivre un événement plus fort, un temps fort qui sort du quotidien, de l'ordinaire, de sortie missionnaire, c'est-à-dire week-end portes ouvertes, et on va rencontrer les personnes qui ne viennent plus sonner au presbytère, qui ne savent plus qu'il y a une maison paroissiale à 10 km de chez eux et qui ne franchissent plus la porte de nos églises. Côté, je pense que toutes nos expériences...
Est-ce qu'il vous en revient une quand je vous en parle ?
Oui,
pour vous, assez emblématique de ce que vous rencontrez quand vous arrivez.
Oui. Il y a plus qu'une expérience, ce qui me vient sur ce sujet qui est évidemment douloureux, qui est on sent parfois des grandes souffrances. La première chose qui me revient, c'est une conversation avec une paroissienne. J'ai passé un an en mission dans un territoire rural en Auvergne, au nord de Clermont. C'était une paroissienne engagée depuis des années qui me disait mais tu vois bien Isabelle, il n'y a plus personne. Et je lui ai répondu mais en fait vous êtes là. Et votre voisine est là, et votre voisine est là. Et les cinq personnes avec qui on vient de célébrer la messe dans son tout petit sanctuaire mariel au milieu des champs dans l'Allier sont là. Et quand on regarde ombre et lumière, c'est la fameuse histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Il faut se demander aussi avec quelles lunettes on regarde. Est-ce qu'on regarde ce qui nous entoure avec les lunettes de la foi? Une expérience qui est marquante pour moi dans les WEMS, c'est de découvrir tant de villages dans lesquels, tant d'églises, tant de tabernacles dans lesquels la présence réelle est présente. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit que le Seigneur Jésus est présent dans des dizaines de milliers de tabernacles en France, que chaque Français vit peut-être à moins de 5 km de la présence réelle?
Alors,
deuxième chose que j'ai en tête pour répondre à votre question, c'est une parole de Dieu qui est dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 12, qui dit « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ». Et en fait, c'est ce qu'on vit pendant ces week-ends. J'ai pas une expérience qui me revient, j'en ai centaines.
J'avais dans ces cas-là une autre question, c'est que vous êtes citadine, comme nombre de jeunes qui viennent des WEMS, enfin bien souvent, en tout cas c'est souvent des grandes villes que vous venez, Paris, Lyon, Clermont et autres. Qu'est-ce qui vous a frappé, on va dire, côté richesse, quand vous avez fait votre année de césure Isidore, donc mission Isidore, ou quand vous allez dans les week-ends, côté verre à moitié plein?
Oui. Et je pense que la première richesse que vous avez peut-être rencontrée dans toute expérience de mission, c'est la richesse de la rencontre. Et moi, je dirais que c'est la première, ce que je garde d'une année de mission, ce que je garde de 30 week-ends de mission, sont des amitiés fortes avec des personnes qui ont de 11 à 90 ans aujourd'hui et qui m'ont, moi, édifiée, évangélisée. Et je pense que c'est... d'une part, je l'ai expérimenté, mais c'est aussi ce que nous dit l'Église, c'est ce que dit Paul VI sur la mission, que l'évangélisateur est toujours le premier évangélisé, et que c'est quand on initie cette démarche de sortie, quand on va vers son voisin, quand on va vers celui qu'on ne rencontre jamais, qu'on se retrouve en fait d'abord face à face avec le Seigneur, et que cette démarche de mission, vous le disiez, Monseigneur Mousset, on a parfois une tendance à l'autoréférentialité, c'est ce que nous dit le pape, on est un peu autocentré, on regarde nos structures et on déplore, on dit il n'y a plus personne, on dit mais il y a 10 ans il y avait le cathé dans tous les villages, etc. Et parfois on regarde vers l'intérieur et on regarde vers l'arrière, comme si quitte à regarder vers l'arrière, je vous propose l'expérience de regarder la France de 1795, on sera peut-être plus si désespéré que ça. Et je pense que ce regard-là est une tentation à laquelle il faut dire passe derrière moi, Satan. Et prenons le temps de regarder les visages de ces personnes.
Alors justement, on va y venir. Je voudrais donner la parole un petit peu à Héloïse Petricciolo, toujours autour de cette question. Héloïse, donc vous habitez dans le Comminges. Alors c'est vrai que quand on va dans le Comminges et qu'on vient de Toulouse, c'est votre cas, hein, puisque vous avez fréquenté la paroisse étudiante. Vous avez été étudiante ici. Le Comminges, c'est une autre aventure. Il se trouve qu'on se connaît un petit peu. C'est vrai que la première fois que je vous ai rencontré dans cet ensemble paroissial Notre-Dame des Coteaux, 64 clochers, le curé disait en rigolant, j'ai une famille pratiquante et c'était vous et votre mari. Alors côté ombre et lumière, qu'est-ce que vous pourriez nous dire du lieu où vous vous trouvez et de votre expérience un petit peu dans le Comminges?
C'est vrai que ce qui est très beau avec le Christ, c'est que tout est en mouvement tout le temps. Des graines, en fait, on les voit pas, mais elles vont sortir. Et là, à ce jour, on n'est plus du tout une seule famille. On est au moins 3-4 familles à animer une messe des familles tous les mois à Boulogne-sur-Gesse. Nos enfants ils volettent un peu partout avec leurs aubes trop grandes. C'est très étonnant. Comment ça se fait maintenant qu'on anime, d'ailleurs? On n'a pas du tout voulu faire un putsch et venir animer, non, pas du tout, non. C'était déjà pour chacun un défi d'arriver à la messe, à l'heure, à 9h30, puisque le prêtre après va desservir une autre paroisse à 11h. C'était un défi d'être à la messe, à l'heure, présentable, parce qu'il y en a beaucoup qui habitent dans des habitats légers, donc il y a de la boue. Il faut, bon, on va peut-être pas mettre les bottes quand même pour aller dans l'église, ça fait trop de bruit quand l'enfant s'agite. Donc là, on est beaucoup. Et en fait, on a reçu un accueil très bon, nous, quand on était une seule famille. Nos enfants pouvaient, voilà, pouvaient être salués. À la fin de la messe, on n'avait jamais senti de... comment dire, voilà, d'écart. Il y a eu tout de suite cette ah tiens merveille, des enfants, une famille. Et puis petit à petit, maintenant voilà, on anime et donc il y a deux familles recommençantes.
Qu'est-ce que vous avez découvert aussi quand vous êtes arrivé au regard de votre expérience de vie chrétienne à Toulouse, comme beauté ou comme trésor que vous n'aviez pas forcément trouvé dans les villes, même si comparaison n'est pas raison. C'est
effectivement. Et effectivement, quand on est arrivé à la campagne, on a eu vraiment le sentiment de s'enfouir et que c'était fini, qu'on avait fini une des plus belles années de notre vie. La paroisse étudiante, c'était très riche. Et là, c'était très dur, quoi. Parce qu'une jeune famille aussi, c'est beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités sur l'épaule de deux jeunes adultes. Bon. Et en fait, on a un peu touché le fond parce que bah, moi, j'ai été alitée pendant des mois pour une grossesse. Mon mari allait chercher la communion, on n'avait aucun lien avec la paroisse. Dès que j'ai pu me relever, on a dit « Oh, il y a une jeune famille, regardez, monsieur le curé, ils vont faire la préparation au mariage. » En parlant de nous à la troisième personne, alors qu'on était là. Alors moi, j'ai dit « Bon, là, Rémi, on est mal parti. »
Donc les richesses, qu'est-ce que vous avez découvert comme, comme belle chose ?
Au début, justement, on a vu vraiment l'ombre. Hein. On a vu le verre à moitié vide. Et puis, on s'est dit « Voilà, on ne va pas lâcher, on va continuer le Christ. » Effectivement, il y a le tabernacle, il y a Jésus. On continue. On a eu besoin d'aller se ressourcer, quitte à faire des kilomètres, mais d'être toujours dans notre paroisse pour le dimanche et se ressourcer ailleurs, faire des retraites, des équipes Notre-Dame avec des kilomètres. Et ensuite, il y a eu autre chose. Est-ce que c'est un curé missionnaire qui est arrivé ? Je pense que ça a beaucoup joué, effectivement. Et c'est aussi le sentiment pour tout le monde qui a été de plus en plus partagé dans la paroisse, qu'on était vraiment des pauvres. Même les conflits n'occupaient plus. En fait, avant, il y avait un petit sentiment, c'était encore un peu vivant parce qu'il y avait des conflits. Finalement, la dissension, c'est la vie. Et en fait, non, même ça, ça ne nourrissait plus. Il y avait trop d'amertume. Et là, on a senti vraiment qu'on était des pauvres, les mains vides. Et on a retrouvé le goût, voilà, de, bah, des liturgies. On a touché du doigt le moment où il n'y aurait plus personne pour animer, où il n'y aurait plus de curé. On l'a frôlé. Et puis, en fait, non, ça s'est pas produit. Je pense que les évêques veillent aussi à ce que bah, chacun reçoive selon ses besoins. Moi, j'ai confiance en ça. Il y a une personne qui a beaucoup prié et qui l'a dit plus tard, « Ah, j'ai tellement prié pour qu'on ait un curé missionnaire juste une fois. »
Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu, avant que vous nous présentiez chacun donc vos initiatives missionnaires, qu'on découvre un peu avec vous. Pour nous aider donc à comprendre ce dont on parle, pour ceux que peut-être qui n'en sont pas, quelques-uns des visages de cette périphérie donc dont on parle moins, comme disent les évêques de France à propos du monde rural. Alors des visages, le monde rural en fait c'est vaste, hein, puisque maintenant en plus l'INSEE en fait une définition encore plus large. On peut citer en vrac. Évidemment, le monde agricole, les néo-ruraux, on peut citer les classes dites populaires ou moyennes, qui parfois sont obligées de s'éloigner des centres-villes pour se loger. On pourrait dire aussi qu'il y a du multiple maintenant spiritualité dans les campagnes. Hein. Il y a des chrétiens, mais il y a aussi des gens qui sont un peu new age, des gens qui ont des pratiques de la méditation. Et puis dans les campagnes, il n'y a pas que des monastères maintenant chrétiens, hein, je crois que c'est le cas de la Dordogne. Si vous deviez nous parler de l'une ou l'autre personne, pour vous qui représente un peu Mgr Philippe Mousset, ces périphéries que vous avez envie de rejoindre dans votre diocèse, de qui vous nous parleriez ?
J'ai tellement de visages que je ne sais pas trop lesquels cibler, mais... effectivement, le monde rural maintenant est très pluriel. Il n'y a pas une figure du monde rural.
Collez bien.
Donc il y a plusieurs visages du monde rural. Il y a eu des mutations, même des métamorphoses accélérées. Moi, je vois bien, hein, qui suis directement issu du milieu rural, profondément ancré dans le milieu rural depuis toujours. Il a beaucoup changé. Il y a eu une grande mutation. Mais j'ai été bouleversé dans une visite pastorale en milieu rural. Parce que maintenant, je prends une semaine quand je fais une visite pastorale, sinon on marche comme des industriels de la mission, alors qu'on est appelé plutôt être des artisans de la mission, on prend le temps. Et donc je passe une semaine et j'étais marqué par une nouvelle population, parce qu'on ne peut pas tout dire, des néo-ruraux, c'est-à-dire des personnes qui viennent chercher la qualité de vie en rural. J'étais impressionné, oui, c'est le mot qui me vient, par ces nouvelles familles qui arrivent. Et j'ai demandé, dans une visite pastorale, vraiment dans un grand espace rural, donc à ces familles de pouvoir les rencontrer. Et on a fait une rencontre entre les néo-ruraux et ceux qui étaient des habitants depuis de longues dates. Ça n'a pas été trop facile, mais j'ai trouvé ça très riche.
Qu'est-ce qui vous a bouleversé? Vous dites que ça vous a bouleversé.
Ce qui m'a bouleversé, c'est que je me suis aperçu que les néo-ruraux qui arrivaient, d'abord, il faut les accueillir. Et là, je demande à nos communautés, mais moi aussi d'ailleurs, prendre le temps de les accueillir parce que ils ont une manière de vivre avec la sobriété. Hein, je redis des mots qu'on connaît, qu'on entend parler. Et en même temps aussi, qui se disent, voilà, nous, on veut prendre le temps de vivre, par exemple, dimanche. On a dû revoir dans certaines paroisses la liturgie du dimanche. J'entends la liturgie dominicale, je distingue deux liturgies au niveau des Eucharisties, la liturgie dominicale et la liturgie de semaine. La liturgie dominicale, je m'aperçois quand même que ces néo-ruraux me disent, nous en famille, nous avons besoin le dimanche d'être accueillis et de repartir joyeux pour la semaine. Donc vraiment, je pense que les liturgies dominicales doivent être... Alors ça là, peut-être qu'il peut y avoir plusieurs schémas qui sortent, mais je ne suis pas trop... Enfin, je m'interroge. Ce n'est pas une question d'être favorable ou défavorable. Quand un prêtre court d'Eucharistie en Eucharistie, comment peut-il prendre le temps de rencontrer en amont, vive la messe et après la messe? Et je pense que ces trois temps sont importants. Mais quand je dis ça, je ne juge aucune méthode.
On a compris, et puis on imagine votre cœur de pasteur. Peut-être sur cette question, essayer de donner un visage, donc ça en est un premier. Isabelle, vous, si vous y allez, c'est que vous avez envie de rencontrer des gens qu'à travers ces personnes, vous rencontriez une soif de Dieu et parfois le visage du Christ. Est-ce qu'il vous revient comme ça un visage? Alors, je ne sais pas ce que vous allez choisir, agriculteur, personne âgée, néo-ruraux ou pas, qui pour vous est un peu le visage de cette périphérie dont on parle ce matin.
Moi, il me revient un visage qui est celui d'une amie, une dame qui m'a hébergée pendant cette année de mission, pendant 2 mois, qui s'appelle Aline, qui était en pré-retraite. Qui avait donc toujours vécu dans le village dans lequel j'habitais chez elle, qui est le village où est née une célébrité, une star internationale qui s'appelle Saint Bénilde. Profitez-en, c'est un saint qui est tellement peu connu qu'il a encore beaucoup de place dans ses prières, qui est un saint auvergnat du 19e siècle, qui a vécu toute sa vie, qui a été canonisé dans les années 60 pour avoir vécu une vie d'instituteur des campagnes. Il était frère des campagnes à la suite de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Et donc Saint Bénilde est né dans ce village de 800 habitants.
Alors parlez-nous de cette femme.
Pour vous parler d'Aline, il faut que je vous parle de Saint Bénilde. Pour moi, Aline, c'est le... peut-être qu'elle écoutera cette table ronde ou qu'elle la regarde, je ne sais pas. C'est le visage de ce que le pape François appelle les saints de la porte d'à côté. Quelqu'un qui vit sa foi dans une grande simplicité, avec un grand attachement à ce saint qui est né chez elle, qui est même de la famille d'un de ses cousins. Donc il y a une proximité avec le ciel, il y a une foi toute simple qui est ancrée dans la piété populaire. Quelqu'un qui est aussi au four et au moulin pour sa paroisse, pour l'église de son village, pour accueillir. Quelqu'un qui connaît ses voisins. Quelqu'un qui ne fait pas de bruit, même à l'échelle de son diocèse ou de... qui sera jamais sous le feu des projecteurs. Je ne sais pas si on rentre là dans le terme de périphérie qui peut vouloir dire tant de choses. Pour moi, c'est l'image de ces personnes qui de ces personnes qui, comme chacun de nos frères et sœurs baptisés, dans leur vie quotidienne, dans l'humilité du quotidien, d'un quotidien qui est très simple, font l'Église et sont le visage de l'Église pour leurs voisins, pour leur village, avec une fidélité qu'il a, que je pense édifiante.
Donc ça fait un deuxième visage. Peut-être, Héloïse, pour finir, avant qu'on parle de vos initiatives, est-ce que vous pouvez prendre un visage, mais vraiment un visage d'une périphérie? Voilà, ce qu'on entend derrière la périphérie, en tout cas ce que dit le pape François, c'est vraiment des lieux à partir desquels il faut aujourd'hui que l'Église se tienne pour comprendre en fait la réalité du monde et pour envisager une juste pastorale. En tout cas, c'est ce que j'ai compris des multiples discours que j'ai pu lire de lui. Alors, une périphérie aussi, dans, semble-t-il, dans ce que dit le pape François, c'est vraiment un lieu existentiel où Dieu n'a qu'une hâte, c'est de se rendre, et où quelque part on l'attend un petit peu aussi. Alors, est-ce qu'il vous vient un visage ou une personne, Héloïse ?
Alors, Emmanuel, là, j'avais préparé, justement, j'ai eu le temps, j'ai un visage qui me vient. Je ne sais pas s'il va répondre à la question de la périphérie, mais je vais le dire quand même. C'est un petit enfant. C'est un petit enfant parce que finalement, ses parents sont nés au ruraux, mais lui est né à la campagne. Cet enfant, il vient à la messe. Il fait de la gym sur les bancs. Et quand tout le monde répond « Amen », il répond « Amen ». Cet enfant a été baptisé à Boulogne. Le prêtre qui le baptise, lui, nous parle dans l'homélie. Voilà Saint Nicodème de Boulogne. Tout le monde rigole. Mais ne riez pas, il est appelé à être saint, comme chacun de vous. Peut-être qu'il va passer toute sa vie ici à garder des bêtes. Effectivement, c'est son envie, cet enfant. Il a une vocation. Dès qu'il croise un éleveur, il s'assimile complètement. Il a un accent à couper au couteau.
Donc il va à la messe et il a été catéchisé à la paroisse.
Tout à fait.
Alors que ses parents peut-être sont loin de l'église.
Non, alors pardon, j'ai pris mon fils, effectivement. Mais c'est un visage qui me frappe parce que, comment dire, il a un accent du Comminges que je n'ai pas. Dès qu'il voit des personnes, il essaye de les gérer comme un troupeau. Je me dis, c'est quand même incroyable. Et pour moi, c'est une périphérie aussi parce que, en fait, les enfants, dès le début, ils reçoivent énormément... Que sont leurs parents? Bon, c'est une chose. Mais c'est lui qui va grandir avec ceux qui sont ruraux de souche. Ils vont faire des projets ensemble. Qui sait? Qui va reprendre l'exploitation de l'autre, etc. Moi, ce que j'aime aussi, c'est un autre visage. Voilà, c'est la permaculture. On a des amis qui sont formateurs en permaculture. Et cet ami-là m'a dit, voilà, moi, c'est à Thésée que j'ai compris que... Alors, j'étais en haleine, je me disais magnifique, bah, que je ne croyais pas. Ah, dur, dur. Et pourtant, Marguerite, qui nous a expliqué, ça c'est des choses que j'ai vues, ça fait partie je pense de ce premier axe, hein, de la vision, que la richesse se trouve aux marges. En permaculture, on apprend ça. La biodiversité se trouve aux rencontres des différentes zones. Sur notre terre, où est la vie, elle est sur ce petit espace-là de rencontre entre le ciel et la terre. C'est la croûte terrestre et c'est là qu'est la vie. Donc la richesse se trouve aux marges. Donc effectivement, il y a énormément de visages qui se rencontrent aux marges. Et en campagne, il n'y a pas deux personnes identiques. C'est impossible. Dans une fratrie, il n'y a pas ça. On s'assimile pas. Voilà.
Alors, donc, ça fait quelques visages. Merci beaucoup. Après avoir essayé de voir, donc, si on doit choisir, parce que en fait, là, c'est la même chose. On a parlé de quelques visages et on aurait pu y passer la journée. Et les choix, j'imagine que c'est la même chose quand on est évêque ou pasteur. Tout le monde doit y aller aussi de son conseil, n'est-ce pas, Monseigneur, quant à la priorité ou à la bonne manière de faire ou à la bonne solution. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la démarche missionnaire synodale que vous avez engagée dans votre diocèse? En quoi elle consiste et qu'est-ce que vous avez à cœur? Qu'est-ce que vous souhaitez que cela réalise ou transforme en Dordogne?
Mon Dieu, en une minute, deux minutes.
Non, n'exagérez pas, je vous laisse plus d'une minute quand même.
Vous êtes gentil avec nous, c'est bien. Écoutez, pour aller à l'essentiel, je m'aperçois que c'est un exercice difficile. Je m'aperçois qu'il y a deux mots qui me viennent. Nos communautés chrétiennes, si elles n'ont pas la santé spirituelle et humaine, nos communautés chrétiennes perdent un peu de l'ardeur et sont jamais satisfaites. Or, je crois que la première chose qu'il faut que nous essayons de faire, et c'est le but de la démarche missionnaire synodale, ce n'est pas la croissance dans un premier temps, c'est la santé. La santé pas au sens de la performance. Je pense à des malades qui ont une santé spirituelle extraordinaire, des gens même de périphérie qui ont une santé extraordinaire. Mais la santé, parce que c'est comme dans notre corps, lorsque les cellules sont en santé, elles se reproduisent. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, ça veut dire quoi, très concrètement, très simplement? Ça veut dire des communautés qui rencontrent le Christ, où nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour que cette rencontre du Christ soit le cœur et le centre de la pastorale, en rural et partout d'ailleurs. Et c'est vraiment ça qui est vraiment le plus important.
D'ailleurs, si je peux me permettre de vous interrompre, vous avez une expression qui m'a surpris, c'est que vous dites que la première mission, justement, c'est la pastorale missionnaire ordinaire.
Et justement, la pastorale ordinaire, on ne peut pas la gommer. On ne peut pas la gommer. Mais ce que je veux dire surtout, comment ne pas se laisser enfermer dans la pastorale ordinaire qui est toujours importante. Car je constate, de par mon regard de pasteur, les communautés les plus vivantes, ce n'est pas forcément celles qui ont plein de moyens, mais ce sont celles qui se risquent à l'audace de sortir de leur communauté pour vivre des missions. Et là, je vois qu'il y a les WEMS, entre autres, hein, mais parce que nous espérons les faire venir. Mais vraiment, la mission. Je reprends ce que disait le pape François au point de départ de son pontificat, qui d'ailleurs relayait aussi Benoît XVI, hein, faut pas, il n'y a pas une rupture. C'est vraiment de ne pas se regarder. On compte trop, on est trop numérique. Mais se dire le Christ, être disciple du Christ et se laisser envoyer, comme nous avons vu hier soir, vous avez entendu, les disciples n'étaient jamais prêts pour partir en mission. De grâce, les amis, encourageons-nous, encouragez aussi vos évêques, à tenter, oser, risquer des missions où on sort de nos communautés pour aller rencontrer les gens. Mission de rue. Mission caravane, peut-être que je sais qu'il y a un prêtre que j'ai bien connu en Ariège qui a fait les caravanes dans les villages. Il faut que nous soyons en sortie et c'est là que nous redécouvrons notre identité profonde. Les périphéries, en fait, elles sont en nous. Plus nous sortons des périphéries existentielles qui sont en nous, plus nous découvrons le disciple missionnaire qui est notre véritable identité. Donc sortons. Et j'espère qu'on va tout à l'heure pouvoir partager des expériences missionnaires.
Alors, allez-y, partagez-en une peut-être rapidement.
Une, c'est trop court.
Une à laquelle vous avez participé. Eh oui, mais le temps passe. Oui.
Mais non, il y en a deux.
On vous réinvitera dans 2 ans, rassurez-vous.
Non, il y a deux choses. Les fraternités missionnaires pour la santé spirituelle. Il faut qu'aux multiples visages, prendre le temps du partage de la parole, du partage de la vie, du partage spirituel dans les églises, devant le Saint-Sacrement, dans les maisons, parce que je vois qu'il y a plein aussi les maisonnées qui se développent, mais aussi les missions. Il y en a deux que j'ai la chance de vivre et d'accompagner. C'est des prêtres qui, chaque année, à 10 ou 15, se donnent rendez-vous sur une paroisse du diocèse et y restent une semaine.
Donc ça vous fait presque la moitié de votre clergé, non, un tiers de votre clergé actif, c'est ça?
Voilà, et des prêtres qui ne peuvent pas consacrer une semaine passent dans cette retraite. Donc ce qui fait qu'il y a 15, 20 ou une vingtaine de prêtres qui participent d'une manière ou d'une autre à ces missions. Je vous assure que toutes les communautés, je dis bien toutes les communautés, qui se risquent dans ce genre de mission, je ne veux pas dire que ça fait des miracles, mais il y a une flamme missionnaire qui se réveille. C'est plus la démarche missionnaire à laquelle je suis très attentif, c'est plus l'esprit missionnaire que d'avoir des recettes missionnaires. Mais c'est cet esprit missionnaire. Cette flamme, ce feu intérieur, ne peut se raviver qu'en sortant et aller à la rencontre des gens que nous ne connaissons pas. C'est notre depuis le Christ avec les apôtres, ça a toujours été le fil rouge. Et parfois, je dis aux gens dans le Périgord, l'évangile est arrivé dans notre pays et dans le Périgord parce que des gens sont sortis. Voilà. Et donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais les paroisses aussi, et après je passe la parole, parce qu'il y a des choses à dire les unes les autres, des semaines missionnaires paroissiales avec des partenaires. J'espère les Bohèmes un jour, mais nous avons aussi une communauté, Palavra Viva. Mais nous avons aussi, je viens d'apprendre avant-hier, qu'une équipe de 5 laïcs et un prêtre se proposent pour faire des missions dans les paroisses sur leurs vacances. Et ça, j'aime ça. Sur leurs vacances. Ils vont prendre 3 jours sur leurs vacances et j'espère que d'ici quelques années, il y aura 10 d'équipes missionnaires, prêtres et laïcs qui se déplaceront dans les paroisses et qui donnent un peu de leurs vacances, pour la mission.
Merci Monseigneur. On peut dire aussi que même si évidemment c'est vous qui êtes invité, vous n'êtes pas tout seul parmi les évêques à être dans cette dynamique. Hein. Il y a un nom qu'on entend beaucoup, c'est Monseigneur Jacques Habert, qui est responsable de la commission du monde rural, que connaît je crois Isabelle Pellissier du Rosas, qui dit et redit que les évêques de France sont désireux d'une réflexion renouvelée sur le monde rural et sur la mission. Alors Isabelle Pellissier du Rosas, les WEMS, allez-y un peu plus, parlez-en-nous, week-end, mission, prière, service, si on doit juste parler d'eux avant de dire un mot de la mission Isidore.
Oui. Les WEMS, Weekend Mission Prière Service, WEMPS, c'est des week-ends de mission paroissiale dans des paroisses rurales qui font appel à une équipe de jeunes pour enclencher avec eux une démarche de sortie missionnaire. Donc pendant 3 ou 4 week-ends, on visite 3 ou 4 des clochers principaux de la paroisse, qui souvent est un regroupement d'anciennement 4 paroisses ou 4 secteurs, anciennement 30 paroisses, etc. Et donc on fait cette mission qui est sur l'année une forme de mission itinérante. À chaque week-end, une équipe de paroissiens qui organise la mission est rejointe par une équipe de jeunes qui viennent d'un peu partout en France, jeunes étudiants, jeunes actifs, qui viennent souvent des grands pôles d'études et de travail, donc des villes.
Qui viennent à combien, peut-être, vous arrivez
qui viennent, la réponse fluctue en fonction du contexte sanitaire. Qui viennent dans les grands jours du monde d'avant, venaient à 30-40. On a fait, pendant entre les confinements au printemps, des missions à 10-15, des missions en plus petit comité. Et on reprend en ce moment des missions à environ 25, qui viennent avec comme ce grand feu d'élan, d'enthousiasme, tout ce que peut apporter un bon groupe de jeunes et qui rencontrent l'église du lieu, c'est-à-dire la paroisse, et ensemble on fait des binômes de porte à porte, un paroissien, un jeune des WEMS. On va sonner aux portes des maisons du village, on organise un concert de chants sacrés dans l'église du lieu. Pas besoin de prendre votre voiture, de refaire ces kilomètres que vous ne pouvez plus faire, etc. Ça se passe chez vous. On vous offre ce temps de beauté, de sacré, qui touche profondément les gens, qui est évidemment suivi d'un temps convivial, d'apéritif, etc. À la fin duquel on a du mal à faire passer ceux qui sont là à l'étape d'après, qui est une veillée d'adoration, de confession, parce que c'est là qu'on a le plus de questions. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore une paroisse chez moi? Est-ce que vous croyez vraiment en Dieu, etc. Je pense que le lieu dans l'expérience dans les WEMS pendant laquelle j'ai été appelée à témoigner de ma foi le plus explicitement et le plus longuement, c'était au bar. On se promenait avec mon binôme de mission dans les rues d'un village. On croise 4 personnes attablées visiblement depuis déjà assez longtemps. La conversation s'engage assez vite. On s'assied avec eux, on a passé 2 heures. Je peux vous dire que quand on est au bar, en général, on a du temps. On a aussi la langue assez déliée. Et je pense que j'ai jamais eu des questions aussi directes de mission. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous portez OMS? On porte un t-shirt bleu assez visible, au dos duquel il y a marqué « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » du psaume 104. Donc voilà ce que sont les OMS. Et
comment se passe peut-être une journée type de mission, ouais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude? On fait quoi du matin au soir?
Ouais. Du matin au soir, on rencontre les participants, donc paroissiens et jeunes des OMS, et les personnes vers qui on va. Ça commence le matin par un temps de ressourcement, messe d'envoi en mission, temps de Lectio Divina, qui permet aussi de faire connaissance entre nous en se plongeant ensemble dans la parole de Dieu, temps de formation à la mission. Ensuite, l'après-midi, envoi en mission par un temps de louange qui nous recentre, nous remet devant le Seigneur, temps de porte-à-porte, animation de rue, foot, jeux pour les enfants, les adolescents, etc. musique sur la place du village, tout ce qu'on peut imaginer selon la configuration du lieu dans lequel on agit. Concert le soir de chants sacrés avec les voix des jeunes et des paroissiens qui sont là. Concert répété environ 3/4 d'heure à l'heure du café. C'est dire que l'Esprit Saint agit. Apéritif qui permet en fait de prendre le temps de faire connaissance, de nouer des contacts, veiller de ressourcement dans le Seigneur par l'adoration, la confession. Et puis le dimanche, messe dominicale, évidemment, temps convivial, donc apéritif qui suit la messe, grand déjeuner partagé, temps de louange, action de grâce, retour du week-end. Je parle vite parce qu'en fait, je voudrais avoir le temps de vous dire autre chose. La première, c'est que quand on vit une mission comme ça, quand on part en porte-à-porte, celui qui me dit qu'il part en porte-à-porte sans une petite boule au ventre, sans appréhension, sans avoir envie au dernier moment de dire « Attends, je vais rester, il y a un gros problème logistique, je me sacrifie, il faut que je gère ». Je vais rester à faire des crêpes pour l'animation qu'on fait sur la place du village. Je vais préparer les partitions pour la messe, etc. On a tous cette tentation-là du départ en mission. Parce que dans le porte-à-porte, on sonne chez les gens et on a, comme le disait Héloïse tout à l'heure, on a les mains vides. Dans la mission, on a les mains vides et la seule chose qu'on a, c'est celui qui nous envoie, c'est le Seigneur Jésus. Et il y a peu de lieux, moi jusqu'à avoir fait cette expérience de porte-à-porte, et la première fois que je l'ai faite, c'était dans votre diocèse, Monseigneur, dans une de ces missions dont vous parliez, je ne m'étais jamais retrouvée aussi démunie, aussi pauvre dans ma foi à la rencontre de cette personne que je vais voir. Je vais sonner chez elle. Pourquoi est-ce que je vais sonner chez elle? Parce que je reconnais en elle l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que je vais rencontrer mon frère ou ma sœur et qu'ensemble, je vais lui proposer qu'on fasse un pas de plus vers le Seigneur qui agit déjà, qui habite déjà dans son cœur, dans sa vie, puisque cette personne est faite à l'image, à la ressemblance de Dieu. La deuxième chose que, sur laquelle je voulais revenir rapidement, c'est qu'on parle beaucoup de périphérie. Il me semble que donc le pape nous invite à faire ce mouvement d'aller vers les périphéries, etc. Moi, je pense que ce sont les périphéries qui nous renouvellent et qui, dans l'histoire de l'Église, renouvellent l'Église. Regardez Mère Teresa, qui vient d'Albanie pendant l'époque soviétique, communiste, etc. Qui pensait que de ce pays-là et de ce bidonville de Calcutta jailliraient les missionnaires de la charité? Regardez Saint François d'Assise dans son ermitage, regardez Saint Benoît.
Et si vous, si vous deviez parler de vous, oui. Qu'est-ce que vous diriez? En quoi ça vous renouvelle, vous?
Ce qui me renouvelle, moi, c'est qu'hier, on fêtait Sainte Thérèse qui a été canonisée il n'y a pas si longtemps que ça. Sainte Thérèse, morte à 24 ans dans son Carmel à Lisieux. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on fêtera dans 100 ans? Qui parmi nous aura été canonisé dans sa vie simple et humble? Peut-être aussi simple et aussi humble pour des visages extérieurs que celle de Sainte Thérèse, que celle d'Aline dont je vous parlais tout à l'heure. Là encore, je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible.
Excusez-moi, je me permets de reposer ma question, c'est un travers journalistique, oui. Mais quand vous dites qu'on est renouvelé, on est d'abord renouvelé, oui, soi-même par l'expérience de la mission, est-ce que vous pouvez en parler à la première personne, nous dire, vous dites que vous avez tremblé, oui, la première fois que vous avez fait, oui, du porte-à-porte. En quoi de participer, d'avoir fait cette année de césure, de la mission Isidore, d'aller régulièrement en mission? Ça nourrit votre foi, ça vous fait grandir.
Oui, je pense que je le disais rapidement tout à l'heure, tout missionnaire, toute personne qui a déjà fait cette démarche ou qui s'est déjà retrouvée, promis, je vais dire « je », mais je pense que cette expérience vous rejoint, celle de vous retrouver dans votre lieu de travail et on vous dit « ah oui, toi t'es catho », et là on se retrouve un peu tout nu et il faut y aller, quoi. On se retrouve pauvre. Moi, je pense que c'est ce que j'ai vécu d'abord dans cette année de mission. Quand on part, moi j'avais 22 ans, on part forcément avec un grand désir. Je suis partie avec un grand désir d'être utile, voire d'être efficace, de porter du fruit, qui est un avant et un après. On pourrait dire, et là c'est peut-être mes études de management qui parlent, en mode projet. Et je pense que ce désir est commun, et celui de nombreux jeunes, ce désir d'utilité, je le retrouve dans le désir de sens de beaucoup de mes amis, dans leur travail, etc. Cette aspiration à quelque chose de plus grand que nous, et cette aspiration à y participer. Et moi, je suis partie, comme ça, avec Dauphine, on est partie, on avait plein d'idées, un grand sourire, et on pensait que la force de nos petits poignets allait faire quelque chose. Et l'expérience que j'ai faite pendant cette année, c'est peut-être très universel dans ce genre d'expérience d'engagement, de mission. On part pour être utile et on se retrouve transformé soi-même. Moi, cette expérience, je la résume assez rapidement en disant que je suis passée du « je veux t'aider » à « j'apprends à t'aimer ». Et donc, en apprenant à t'aimer, j'apprends à me laisser aimer. Et ça, c'est l'expérience de la rencontre. Si, quand je viens chez vous, je frappe à votre porte, je fais du porte-à-porte, et je viens pour vous aider, J'ai qu'une seule main parce que j'ai un micro, mais quand je viens pour vous aider, implicitement, en fait, moi, je suis un peu là et puis vous, vous êtes là. Si je viens pour vous aimer, en fait, je suis entièrement dépendante de vous parce que vous pouvez rejeter mon amour et si vous me rejetez, bah, ça fait mal. On est obligé de se mouiller, de s'engager. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, notamment dans cette année. C'est ce que j'ai vécu, je pense, à un projet où on tentait dans notre paroisse de mission de mettre en place un parcours alpha. En se disant, mais c'est génial, ça sera missionnaire, ça va évangéliser tout le monde, les paroissiens, ceux qu'on va rencontrer, etc. Énorme échec. Et quand on se retrouve confronté à l'échec, on se dit, bah, en fait, Seigneur, quel est ce fruit que tu vas porter là, à travers moi, apparemment. Là, j'ai voulu faire un projet pour Dieu. J'ai voulu, moi, faire une œuvre pour Dieu, mais j'ai peut-être pas fait l'œuvre de Dieu. J'ai pas fait le projet de Dieu à travers moi. J'ai voulu agir pour Dieu. Et alors je pense que c'est là que le missionnaire se fait convertir. C'est qu'on se retrouve dans nos échecs, dans ces portes qui se ferment, dans ces conversations qui nous amènent là où on pensait pas aller, dans ces questions auxquelles on sait pas répondre. On se retrouve encore une fois comme un petit enfant devant le Seigneur et on dit, bah là, Seigneur, c'est toi qui parles, c'est toi qui agis. C'est toi qui sais, c'est toi qui sais pourquoi tu m'as envoyé là. C'est toi qui sais pourquoi je suis dans ce village où il pleut, ça fait une heure que je fais du porte-à-porte et personne ne m'ouvre. C'est toi qui agis. Et il y a cette expérience de lâcher prise qu'on fait, je pense, dans peu de lieux dans notre vie, à part dans ce lieu de la mission vécue avec le cœur.
Merci Isabelle Pélissier du Rosas. On va donner la parole un petit peu à Héloïse. Alors, vous applaudissez tous les intervenants, n'est-ce pas, puisqu'il ne s'agit pas de faire de favoritisme. Héloïse Petrit-Cholo, alors vous, donc, vous y êtes avec votre mari donc, depuis quelques années, et maintenant vos enfants, dont Nicodème, on espère qu'il deviendra Saint-Nicodème. Vous me disiez, en préparant un petit peu cette table ronde, que comme vient de le dire en fait Isabelle, vous êtes arrivé un petit peu au début tout feu, tout flamme, même si on a compris que vous avez au début trouvé ça difficile. Et puis petit à petit, vous vous êtes dit que le mieux c'était de commencer par devenir ami avec les personnes qui vous entouraient. Alors expliquez-nous un peu ce chemin que vous avez fait avec votre époux.
Merci. Alors effectivement, assez vite, on avait voulu... En tout cas, moi, je rejoins voilà, cette dynamique dont tu parles de proactif, mettre en place des choses, proposer, et puis rejoindre ce qui existait déjà. Je me suis retrouvée une année en juin, une semaine de juin, avec tous les soirs, une soirée de clôture ou festive d'une chose ou d'une autre. Il y avait la réunion de l'Oustal, il y avait un groupe de prière de Thésée que j'animais avec deux pelés trois tondus, voilà. Tous les soirs, quelque chose. Chantier éducation, parler avec des familles, allons-y, réfléchissons sur nos pratiques éducatives, etc. C'était beaucoup. C'était beaucoup et en fait, c'était proactif. Ça venait de moi. Et parfois, j'avais réussi à embarquer une ou deux autres personnes. Ou parfois, c'était le contraire. C'est moi qui avais été embarquée par une autre personne qui avait réussi. Enfin, beaucoup d'énergie. Et finalement, notre maison... était un peu délaissé. Disons qu'on était toujours sur le pont, sur la mission, c'est la mission, il faut y aller. Mais bon, en rentrant, nos enfants, ils sont petits, ils ont des besoins affectifs, ils ont des besoins de présence. Ils ne comprennent pas. Et donc, il y a quelque chose d'autre qui a changé. Donc on a levé le pied, on a arrêté tout ça. Prendre en compte nos propres fragilités, en fait, c'est le Seigneur hein, qui nous mène, vraiment. Et on a découvert dans la communion Priscille-Aquila quelque chose qui est très riche, c'est que quand on est en mission, on se met sous la conduite de l'Esprit-Saint. En fait, l'Esprit-Saint, lui, a la force. Et nous, on dit oui. Il nous transforme. Et donc, ce qu'on a appris aussi, c'est qu'en mission, on reçoit beaucoup, on est renouvelé, on est transformé.
Et vous parlez d'une pastorale de l'amitié. C'est-à-dire
voilà.
Qu'on a l'impression.
C'est vrai que tu m'avais
que
lancé
êtes,
là-dessus. Oui.
Voilà, vous êtes. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là?
Alors.
Et voilà, qu'est-ce que vous vivez aussi avec votre mari?
Effectivement. Donc, on a réappris à la suite du pape François aussi l'amour. Alors, les exhortations, les encycliques, c'est l'amour. L'amour dans la famille, la joie de l'amour, Gaudete et exultate. Enfin, voilà, l'amour partout. Laudato aussi. Bon, loué sois-tu, Seigneur, pour cette terre que j'aime, pour ce monde que j'aime. On a appris à ce que notre maison soit un lieu de ressources, à aller creuser, à faire plus de place à Dieu chez nous, dans notre cœur. Et à partir de là, on était ouvert, beaucoup plus perméable au cœur de Jésus et perméable au cœur des autres aussi. On n'avait plus ce besoin de sanctuariser des zones où on soit que nous. On a pu voilà, être beaucoup plus perméable, plus ouvert. Et donc les personnes venaient chez nous sans qu'il y ait de projet ou d'intention spéciale, mais intégrées à notre vie courante. On bénit les repas, on salue les icônes, ou nos enfants vont se coucher, bon, voilà, on les bénit et puis on passe du temps avec eux. Ce sont nos premiers invités, nos enfants. On prend le temps voilà, de vivre. Et les personnes qui viennent, finalement, par amitié, on a appris beaucoup de choses, on s'est laissé évangéliser énormément par des personnes qui ne portaient pas le Christ, par choix, qui ne le portaient pas, soit qui ne le souhaitent pas ou qui ne le connaissent pas.
Par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire par évangéliser par des gens qui ne connaissent pas le Christ ? Vous pouvez prendre un exemple ?
Oui. J'ai découvert des personnes qui sont capables d'écouter quelqu'un qui pleure, de se tenir à côté, voilà, avec l'empathie, la confiance. Alors, où est-ce qu'ils trouvent la ressource ? Ben dans le cœur, en fait, dans le cœur. Donc vraiment, j'ai appris à entendre tout ce que me dit l'Église aussi par le cœur. Tout ce que me dit l'Église, c'est par le cœur. À partir de là, ça sera perméable. Et donc par amitié, il y a des choses maintenant incroyables, des personnes qui viennent nous voir, qui ont besoin de parler de Jésus, de leur foi. Ça nous arrive, je pense, à tous. Mais voilà.
Est-ce que vous pouvez dire un tout petit mot parce que c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais hélas on ne peut pas parler de tout. Ouais. C'est qu'on dit aussi de cette France rurale parfois que c'est un peu la. Enfin, en France, il y a une diagonale du vide, même selon certains sociologues, dont on a entendu parler, entre autres, au moins de la crise des gilets jaunes. C'est une autre réalité du monde rural qui parfois se sent un peu à la marge, se sent exclu, est en colère. Votre mari, en fait, s'est un peu engagé dans le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, il a été attentif.
Ouais.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi une périphérie ? Est-ce qu'il a réussi ?
Enfin, voilà,
en essayant de se rendre présent. Enfin, je trouvais que c'était important de le dire parce que ça fait partie de votre histoire familiale et aussi de vos intentions, on va dire, missionnaires.
Oui, donc très bien. Bah, Rémi, il a entendu ce cri, peut-être qui résonnait avec son propre cri aussi, de gilet jaune, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'on va devenir en fait hein, à un moment donné, ça va trop loin. Voilà. Ça peut faire peur les gilets jaunes, mais en l'occurrence, c'était des personnes se rassemblent, elles ont besoin de partager, d'échanger, elles ont des choses à dire, allons-y, allons les voir, allons à leur rencontre. Rémi, il fait ça, il continue, hein, dès qu'il y a des rassemblements, il y va, et il écoute, et puis il parle aussi. Et on ressent que ce sont des personnes qui ont besoin de mettre des mots sur leur histoire et qui vivent le kérigme, c'est-à-dire le salut. En fait, je touche le fond, mais je vois bien qu'il y a une lumière. Et en parlant, en étant écouté, ah, je vois bien que cette lumière, elle est déjà passée dans ma vie. C'est vraiment des combats de lumière, en fait. Et c'est des personnes, des moments de nos vies où on a besoin aussi beaucoup de protection. Voilà où j'en suis. Voilà les démarches que je fais parce que là je sens que j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de plus de spiritualité. Il y a de tout. J'ai besoin d'entraide, de soutien. Eh ben, on va essayer de donner la réponse. La confiance que le Seigneur n'abandonne aucun de ses petits. Que un pauvre cri, le Seigneur l'entend. Mais le chrétien qui est là est aussi un pauvre, il entend le cri, on répond, voilà. Très important, du coup, de ces personnes qui. Est-ce que je suis sauvée ? Où j'en suis ? Oui, le Christ, il est là. Alors,
vous voulez dire que c'est des questions qui finissent par poser sur les ronds-points et après je donnerai la parole à
Monseigneur. C'est des questions qui sortent, oui, dans les rassemblements, effectivement. C'est-à-dire des personnes qui sentent qu'ils sont à des bascules, des points de bascule de leur vie, qui ont besoin de sortir de l'isolement. Ouais, l'isolement, c'est là où il y a le plus de dégâts. En fait, l'isolement, c'est là où nos trajectoires individuelles, elles se perdent. C'est là où nos cœurs saignent parce qu'on entend le nombre de suicides ou de séparations, mais des séparations qui se passent mal, c'est-à-dire des personnes, ouais, c'est désespéré, il faut qu'on trouve une issue, je vais faire ma vie autrement, quoi. Je vais tout changer.
Alors, voilà. Juste, pardon, je vous coupe parce que je vois qu'il reste juste 5 minutes.
Ah, finis sur du triste.
Pardon, alors allez-y, vite.
Ok. Donc, ce que je vois, moi, en campagne, c'est qu'on a des personnes qui sont des ruraux de souche, des familles très fortes, qui soutiennent. Ils ont besoin de trouver encore maintenant dans l'Église de la chaleur humaine et ils ont besoin d'une réponse qui soit de l'ordre de la confiance, de la fidélité. Donc les petits couples qui demandent le mariage, qui ont toujours vécu là, eh ben, ils ont besoin de confiance, de fidélité, qu'on leur fasse signe régulièrement et qu'ils viennent à leur rythme. Voilà. Deuxièmement, je vois que les personnes qui sont néo-ruraux, qui sont chercheurs de lumière, de sens, qui sont venus à la campagne pour réduire leur empreinte écologique pour beaucoup de choses, ont besoin de paroles, ont besoin d'être vraiment abreuvés. Ont besoin de découvrir cette transcendance qu'on ne doit pas trouver même quand on va explorer toute la richesse du créé. Ils explorent toute la richesse de la création. Ils ont besoin aussi de cette transcendance. Hier, on a entendu la croix de Jésus qui ouvre les cieux, qui ouvre le ciel. Voilà. Donc, il y a ce mouvement-là. Et il y a ensuite aussi ce monde vraiment des petits. On peut dire quart monde. On peut dire nos bourgs en campagne, les centres-villes, c'est souvent vétuste. Hein.
C'est pauvre. Oui.
La qualité de vie, c'est les maisons qui sont restaurées, rénovées un peu plus loin. Le bourg en campagne, c'est vraiment vétuste. Ces personnes-là ont besoin de faire le point, de dire « mais en fait, moi, je suis déjà sauvée ». Oui, ont besoin d'écoute et de prière, qu'on prie pour eux. Et les missions leur font beaucoup de bien. Voilà. Il y a tous ces mouvements-là et en fait, on les retrouve dans la croix. Il y a vraiment...
Ouais. Monseigneur Philippe Mousset, peut-être pour finir, il nous reste, les congrès missions, c'est timé, c'est du carré et c'est tant mieux. Il nous reste quelques minutes. Je sais pas, le mot de la fin, moi je vous en propose un, mais je vous laisse libre de choisir. À propos justement de cette France des périphéries, vous, est-ce que vous avez l'impression de faire partie de la France des périphéries quelque part? Et pour reprendre un peu le titre de la table ronde, est-ce que cette France des périphéries, dans le fond, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, elle a une longueur d'avance en termes de renouveau missionnaire?
Je ne sais pas si elle a une longueur d'avance, mais si vous permettez, ce qu'on vient d'entendre dans les deux témoignages précédents, c'est vraiment... le rural est une périphérie, mais je ne suis pas sûr que la ville n'est pas aussi une autre sorte de périphérie. C'est vraiment moi ce qui me revient comme parole lorsque Jésus envoie les disciples. Il a dit ne chargez pas trop vos sacs à dos. C'est vraiment partez à la rencontre. Et là, j'ai trouvé deux très beaux témoignages. C'est ça, lorsque j'insistais tout à l'heure pour la mission, aller à la rencontre des gens, c'est vraiment pas pour faire du forcing. C'est vraiment le Christ qui nous demande de rencontrer les gens en toute simplicité. Comment faire aussi que dans ces rencontres, on se découvre mutuellement et que les personnes que nous rencontrons ont besoin de sentir que leur vie, nos vies, parce qu'on est avec eux, ne se résume pas simplement à des problèmes qu'on peut rencontrer, mais il y a toujours une aube, un renouveau qui naît, qui jaillit, je crois, de toute rencontre. Lorsque celle-ci est simple, à la même hauteur, comme le Christ rencontrait les personnes. Et je pense que le monde d'aujourd'hui, les périphéries ou non-périphéries, ont besoin de ces rencontres-là, de ces rencontres simples, animées, parce que le Christ nous précède. Donc vraiment, je suis très... Donc je ne vais pas faire de grandes théories, mais c'est ça la mission. Hein. C'est vraiment sortir de soi, aller à la rencontre, y compris gilets jaunes, n'ayons pas peur de tous ces mouvements. J'étais très sensible, c'est la première fois que j'entends un témoignage d'un chrétien qui va aux gilets jaunes. Il y en a eu quelques-uns dans mon diocèse, mais je n'y ai pas eu suffisamment d'intérêt. Merci de votre témoignage. Et puis d'Isabelle aussi, vous pouvez revenir dans le diocèse de Dordogne, vraiment. J'ai envie de dire, restons simples, mais le Christ nous appelle à sortir pour se rencontrer. Et c'est lui qui fait jaillir la vie, c'est lui qui fait jaillir des chemins nouveaux, c'est lui qui fait jaillir une lumière là où il y avait une situation difficile, mais c'est sûr, il nous attend. Il nous attend, en fait. Il nous attend.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup à vous trois, en tout cas, d'avoir essayé de partager avec votre cœur et votre tête et votre expérience pastorale, parce que tout le monde a une expérience pastorale. C'est beau de découvrir ça autour de ce plateau, hein, et du feu, il y en a, hein, parmi nos invités. Un grand merci à vous.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.